Les pieds sur terre, quartier d'été.
Personne ne sait ce qui se passe aujourd'hui parce que personne ne veut qu'il se passe quelque chose.
The title of the painting is The Raft of Medusa. In French, it's Le Radeau de la Méduse.
Ce tableau-là, quand même, il est assez connu, quoi. C'est comme un logo, on l'a déjà vu sans véritablement le voir. Et puis quand on tombe dessus, comme ça, on est d'abord attiré par son gigantisme. Ce qu'en ressort déjà, c'est la détresse. C'est aussi la forme générale, c'est que c'est un amas de personnes. Ceux qui sont à la base, on peut l'imaginer mort ou agonisant. Et puis on voit qu'en haut de la pyramide, il y a le plus vif, le plus vigoureux qui agite son foulard. Et puis comme ça, ça monte comme ça. Mais voilà, il y a l'intermédiaire avec les gens qui sont en train de se hisser vers le haut, mais qu'on sent un peu fébrile. Donc voilà, il y a une espèce de degré de fragilité. Et puis au loin, on voit au large une espèce de silhouette de bateau. Et on se dit, mais ils n'ont pratiquement aucune chance de se faire opérer par ce bateau. Et pourtant, ils agitent des foulards. Donc, c'est assez angoissant.
C'est un des tableaux les plus connus du Louvre. Un logo, une marque, un must qu'on ne va pas voir mais reconnaître, un peu comme Venise ou New York. Un tableau qui figure certainement dans le top 10 ou le top 5 des toiles les plus regardées du Louvre. Dommage qu'on ne puisse pas faire comme avec les clics internet et quantifier précisément le nombre de regards posés sur l'œuvre, mais ce qui est sûr en tout cas, comme on peut le lire sur le site internet du Louvre, c'est que le Radeau de la Méduse est une des œuvres capitales du 19e siècle. Le thème, c'est celui du sauvetage de la frégate La Méduse qui a sombré en 1816 près des côtes du Sénégal. 150 hommes ont alors pris place sur un radeau qui dériva pendant 10 jours, 15 mourant seulement, subsistent quand un vaisseau fut en vue et c'est ce moment précis que le peintre a choisi de représenter. Il représente donc le faux espoir qui précède le sauvetage des naufragés puisque le bateau, parti à leur secours, en réalité s'éloigne sans les voir. Nous nous sommes donc assis sur un banc juste en face du tableau et nous avons abordé les visiteurs pour qu'ils nous parlent de leur vie grâce au tableau de Géricault et de ce que le tableau dit de leur vie, de ce qu'ils peuvent en dire, de l'interaction qu'il y a entre la culture et la vie qui est le thème que nous choisissons d'explorer cette semaine. L'expérience fut enrichissante, comme on l'entend tout de suite, les pieds sur terre, quartier d'été, un reportage de Delphine Saltel.
En réalité, on ne sait jamais ce qui se passe, on sait simplement ce qu'on veut qu'il se passe. C'est comme ça que les choses arrivent.
Vous pouvez me dire où on est ?
Eh bien, on est au musée du Louvre.
Je cherche la salle du Radeau de la Méduse.
Deux étages plus haut.
Vous montez et vous prenez par là-haut. Ou alors de l'autre côté, ça revient au même. Ah non, c'est mieux par là. Tout au bout, montez. Et vous revenez un petit peu sur vos pas à ce niveau-là, en fait, la salle.
Then on the right-hand side, you've got the pyramid of hope. So of course, this was not accepted.
右手の人はね、違いますよね。希望がある人じゃないです。どうしてですか？あそこの船読んでるからです。ちっちゃいけれどね。
天能对火叮当。天能对火叮当。
Je suis un peu impressionné, étonné par la taille. J'ai l'impression de pouvoir aller rentrer dans le tableau, d'être sur le radeau en fin de compte, à quelque part, avec eux. Donc c'est assez troublant. Je suis assez stupéfait.
Vous pouvez les décrire, ces personnages ?
Morts-vivants, certains morts, d'autres prêts à basculer d'un côté ou de l'autre. Et au plus on se dirige vers l'avant du radeau, au plus il y a de l'espoir de vie. Et certains en train d'avertir les plus démunis qu'il y a quelque chose à l'horizon, un espoir.
Vous, si vous étiez sur le radeau, vous seriez lequel des personnages ?
De plus en plus vers ceux de devant, pour avoir été de plus en plus confronté à la mort récemment, de proche. Donc d'être passé au fond du radeau et de petit à petit aller vers l'avant. C'est très réaliste. Très réaliste. C'est justement ça qui m'a fait me rapprocher. Voilà.
En fait, je sais pas du tout qu'est-ce que ça raconte. Hein. Après, c'est l'émotion, quoi. C'est la peinture, ça va pas au-delà, quoi. On voit effectivement des corps qui sont un peu éparpillés partout et donc un naufrage, quoi. Mais bon, après, il y a eu un bateau qui a dû sombrer et puis bon, il se retrouvait un petit peu sur un canot de sauvetage. Bon, bah, maintenant, ça pourrait être les canots pneumatiques, mais bon, bah, à l'époque, c'était effectivement un radeau, quoi. Enfin, moi, je l'imagine comme un morceau de bateau, quoi. Un morceau qui reste, ils sont accrochés à, je sais pas quoi, une paroi qui... Une paroi du bateau peut-être qui flotte. Et puis, ben, bon, combien de temps on peut résister voilà, ça c'est une autre paire de manches. Hein. Si on ne trouve pas la terre ou un autre bateau, ben, on est voué à la perdition. Il ben, y a une note d'espoir quand même, parce que bon, là-haut, on voit des hommes là, qui font des signes et a priori, il semblerait qu'on voit là-haut un bateau ou quelque chose comme ça. Donc, ça représente quand même l'espoir. Même si c'est un désastre, il y a l'espoir derrière. C'est peut-être d'actualité. Le monde va mal, mais il y a toujours de l'espoir derrière.
Vous, sur le radeau, vous auriez été qui ?
Alors là, ça, j'en sais rien du tout. Je serais peut-être morte déjà, j'en sais rien. Après, ça dépend comment on est touché. Ça dépend si on a pris une vague, si on n'en a pas pris. Pour mon orgueil personnel et pour mon ego personnel, j'aimerais me dire que je ne flancherai pas. Ça, c'est clair. Mais dans l'adversité, on ne sait jamais ce qu'on peut faire. Mais après, bon, c'est l'instinct de survie aussi. C'est une combativité. Hein. Je me suis déjà retournée en bagnole alors. Donc, j'étais dans le coma pendant une semaine. Donc, j'étais sur le fil du rasoir, on va dire. Parce qu'à un moment donné, bon, on est tellement fatigué que on dit bon ben j'abandonne. Et puis bon, les autres disent mais non, mais non, mais non. Et bon, on dit on y retourne. Allez. C'est difficile. C'était très très difficile.
Donc vous, ce qui vous a sauvé, c'est pas le bateau comme sur le tableau, mais c'est les gens.
Peut-être, ouais. Le soutien. Donc en fait. C'est vrai que c'est un ensemble, ils se soutiennent tous et le fait de se stimuler, je veux dire, bon, vous avez des gens qui perdent espoir, ils se stimulent et en fait, voilà quoi, ça repart. Il faut de l'humanisme, il faut de l'élévation. Maintenant les gens sont égoïstes, pensent à leur petit confort pour moi, là ça va plus du tout. Il n'y a plus de solidarité, je passe et après on verra quoi. Moi, je dirais que bon, on est sur le radeau, mais le radeau, il est en train de prendre de l'eau, hein. Donc, on a intérêt à trouver un bateau vite fait, hein. Ce qu'il y a, c'est que les gens, ils voient pas.
Comment vous appelez ?
Catherine.
Et vous vivez où ?
À Reims.
Et vous avez fait tout le loup ?
Tout, non. J'avais déjà fait plus. Non, on a fait la galerie d'Apollon. On circule un petit peu sur peinture italienne, un peu peinture française. On est peut-être allé. Essayer de voir la Mésopotamie, enfin des choses comme ça, quoi.
J'ai regardé la Louvre.
En fait, je l'emmène à Paris parce que je l'emmène visiter pour qu'il voit la Joconde. Et il l'a vu.
Et le radeau de la Méduse, ça vous fait pas trop peur ?
Non. C'est des naufragés. Là, ils mettent toute leur force pour... faire des signes et s'il les voit pas, il meurt dans quelques heures.
On est sur le même bateau, on est sur la même mer, on est sur la même terre, on est solidaires.
Et vous pensez pensé qu'ils ont été solidaires ?
Non, pas tous, non, je pense pas.
Et t'as vu celui qui est tout en bas à gauche ? Qu'est-ce qui lui est arrivé à ton avis ?
Il a dû se faire écraser, je sais pas, il a été mangé.
Il a été mangé par qui ?
Par les autres, parce qu'ils ont faim. Je pense qu'ils vont tous se manger un par un.
Je ne l'avais jamais vu de comme ça de si près. C'est magnifique. Magnifique. Ces pauvres gens qui ont dû travailler dur toute leur vie, puis quelque part, tout s'écroule. Et c'est ce qui malheureusement se passe maintenant, de nos jours, de plus en plus, il me semble. Pas pour tout le monde, naturellement, n'est-ce pas ? Pas pour tout le monde, mais pour beaucoup. Ah oui. Mais je travaille dans le secteur de la sécurité sociale, ça devient dingue. Hein. Ça devient dingue. Hein. C'est la médecine des riches, la médecine des pauvres. Après, on ne va plus avoir de sécu, c'est sûr. On va faire comme les Américains. Hein. Ça devient affreux, affreux. Les pauvres petits retraités, ils sont là, ils se demandent comment ils vont survivre à tout ça. Donc, quelque part, en regardant ça, ben oui, c'est la fin d'une histoire, moi je dis. Malheureusement.
Et qu'est-ce qui nous sauvera ? Parce que là, si on regarde le tableau, il y a un bateau à l'horizon qui va peut-être les sauver. Alors, je ne sais pas.
Ah oui, j'avais pas vu.
Vous voyez ?
Ouais, c'est vrai qu'avec le recul, oui. Oui, c'est là qu'ils font des signes avec leur drap. Est-ce qu'on va s'en sortir, Alex ? La dame me demande.
Il reste une demi-heure.
Hein ? Oui, on y va. Ben, je l'espère pour tout le monde.
Mais vous y croyez ?
Non.
Vous allez regarder le radeau de la Méduse ou pas ?
Excusez-moi, mademoiselle, je parle très mal français, je suis étranger.
Ah bah vous parlez très bien.
Mais non, vous me flattez.
Vous êtes d'où ?
De la Russie.
Et vous êtes en voyage ?
Oui, en mission.
Sur quoi ?
Sur la littérature russe. Sergeïevitch Merezhkovski, Valérie Brioussov, les autres, des auteurs russes. Je suis professeur de l'université de Moscou. Malheureusement, j'ai seulement une journée ici à Paris, peut-être une heure pour le Louvre. Et maintenant, à vrai dire, je ne sais pas de quoi commencer.
Le radeau de la Méduse, vous connaissez ?
Bien sûr, je connais. Peut-être ce n'est pas le style qui me plaît. Écoutez, je ne suis pas prêt à dire quelque chose. Il faut analyser cette peinture. Pour dire quelque chose, je dois réfléchir un petit peu. Peut-être en solitude, excusez-moi.
Je vous laisse alors.
Merci.
Ben, c'est une métaphore. Vous le savez, il arrive beaucoup de personnes à l'Italie. D'Afrique, de Yougoslavie, Albanie. Mais plus de l'Afrique. Il arrive en bateau, dans le sud de l'Italie, en Sicile. Et c'est terrible pour elle. Je suis ouverte à ces personnes, mais le problème, c'est qu'a commencé le racisme en Italie. Beaucoup de racisme.
Et vous pensez que ça finira par s'arranger ?
Je ne sais pas. J'espère.
France Culture, les pieds sur terre.
Ces genres de tableaux sont, ouais, ils sont intemporels, quoi. Il y a pas de, on peut parler de ces sans-papiers qui, au large du Sénégal, tentent de, pour aller bon trouver l'Eldorado, se jettent vers les côtes européennes et, je sais pas, il y a un nombre énorme de clandestins justement qui périssent sur ces radeaux de fortune. Donc on peut, voilà, un peu penser à ça.
En plus, il y a des hommes de différentes couleurs.
Alors, de différentes couleurs. Je ne sais pas si c'est dû, en fait, à c'est la couleur de la mort, ou parce qu'il y en a, ils sont plus ou moins bleus. Enfin, on sent qu'ils sont assez pâles. Et puis, on en voit un qui paraît un peu plus bronzé que les autres, là.
Moi, je pense là. Que le personnage qui est couché...
Là, avec...
Voilà, juste à côté du cadavre, tout près du tonneau, il est noir.
Ah ouais, tiens. Non, mais c'est vrai que les gens ont tendance à toujours Quand ils voient une personne métisse, elle est jamais métisse, elle est toujours noire, quoi. Je pense qu'on devrait faire attention aux métisses, enfin, je veux dire, à les appeler métisses, parce que même pour eux, un métisse dans sa tête, il a, quand il est métisse, il vit entre deux mondes, entre deux couleurs, et le, quand on dit qu'ils sont noirs, en fait, mais c'est les mettre dans un camp, alors qu'ils sont pas noirs ni blancs, ils sont métisses. Moi, on m'a toujours dit que j'étais noir, mais moi, je suis vraiment noir, parce que mes deux parents sont noirs.
Vous êtes de quelle origine ?
Antillais, mes deux parents sont guadeloupéens.
N'empêche que...
Ah oui, pour revenir au tableau, je n'empêche pense que oui. Bah, en fait, c'est-à-dire que là, il y a énormément de détresse et un soupçon d'espoir. Alors, je pense que la vie, c'est un peu plus partagé, quoi. Je pense que c'est un peu plus partagé. C'est pour ça que là, vraiment, c'est très, très... C'est une peinture très noire, quoi. Moi, je ne pourrais pas faire, par exemple, de rapprochement avec ma vie, quoi. Parce que c'est que ça quand même a été quand même beaucoup plus joyeux que ça, quoi. Là, c'est hardcore. Je veux dire, là, ils risquent leur vie, quoi. Moi, j'ai jamais risqué ma vie. J'ai une vie assez tranquille, très ennuyeuse. C'est la routine, quoi. Je veux dire, il n'y a pas de...
Mais c'est quoi votre routine ?
Ma routine, pour l'instant, c'est le chômage. Je suis venu au musée parce que, justement, j'ai mes tickets de tous les musées nationaux. En fait, j'ai mes tickets exonérés, donc j'en profite. J'adore la peinture, donc voilà, je viens. Et puis bon, c'est un peu la routine du chômeur qui profite de un peu de ça. Et puis qu'en même temps, voilà, quoi, il n'a pas de taf, il n'arrive pas à trouver sa place en société. Moi, je trouve que c'est important de taffer, quoi. Je suis retaffé et puis voilà. Bon, c'est la première fois que je suis au chômage. J'essaye un peu aussi, j'avoue, d'en profiter un peu, quoi. Donc je viens ici, je flâne, je m'ennuie beaucoup et voilà, quoi.
Vous avez quel âge ?
J'ai 27.
Et vous avez fait quoi comme travail avant ?
Je bossais à la mairie de Paris, j'étais emploi jeune. Je faisais de la médiation. Et comme avant, je bossais dans le bâtiment, c'était hyper physique. Et le milieu ouvrier, c'est pas marrant, c'est pas mixte. Tout le temps entre mecs. Après, beaucoup de gens qui parlent pas forcément français. Le problème, c'est que là, les gens, ils viennent justement, ils ont pas envie de parler, ils ont pas envie de discuter. Ils viennent là pour vraiment taffer, pour manger, quoi, pour remplir la gamelle. Donc après, je suis venu à un taf où c'était mixte, où il y avait des jeunes, où il y avait une bonne ambiance. On faisait pas, où notre boulot, il était pas super contraignant. Donc voilà quoi. Tous les mois, j'avais un salaire, tac. Enfin, je sais pas.
Vous avez quoi comme formation ?
J'ai un CAP d'ébéniste et puis c'est tout quoi. Ébéniste, faut être passionné. Moi, je suis un peu arrivé là par hasard. On m'a demandé très tôt de choisir un boulot. J'avais 12 ans. On m'a dit, t'as le choix entre maçon, menuisier, serveur, cuisinier, chaudronnier et peintre en bâtiment. Alors moi, j'ai pris ce qui me paraissait le plus noble, le bois, menuiserie.
Mais je comprends pas pourquoi à 12 ans, c'est hyper tôt pour être orienté.
En fait, très petit, en fait, je faisais n'importe quoi à l'école, je ne travaillais pas, je frappais mes camarades. Donc très tôt, à 9 ans, en fait, non, 8 ans, on m'a emmené dans une institut de rééducation. Donc ça fait que mon niveau scolaire, il n'a jamais véritablement évolué, il a toujours été à peu près à la marge et tout. Parce que c'était une école un peu, on va dire, qui privilégiait la démarche, on va dire...
D'épanouissement,
voilà. Donc c'est grâce un peu à cette éducation-là que je me suis intéressé à l'art.
Donc finalement, c'était pas mal.
Oui, mais ça paye pas. Ça paye pas. On n'a pas besoin de gens comme ça. Il faut des choses très concrètes pour bosser dans certains milieux. Je reste quand même dans la classe laborieuse, quoi. Mais je veux dire, bon, tant pis. C'est pas un problème pour moi. J'ai pas besoin d'avoir un boulot passion, quoi. C'est-à-dire, je sais que ça, c'est mort. Ce qu'il y a de bon maintenant pour moi, c'est de pouvoir trouver un boulot qui me donne une sécurité, de l'emploi.
Mais pourquoi c'est mort ?
Bah parce que moi je suis très réaliste quoi. Il y a très peu de gens qui sont épanouis dans leur boulot. Moi je sais que moi c'est comme j'ai pas fait d'études, j'ai aucun bagage. Ce qui me reste c'est faire un boulot qui peut-être ce sera peut-être être assis, faire de la surveillance, des choses pas très. J'ai peut-être pas trop de comme on dit d'objectifs dans la vie, de projets. Alors c'est peut-être ça mon défaut. Si vous savez, je me contente de peu quoi. Voilà.
Ça dépend de notre humeur quand on le regarde. Peut-être ce cadavre, cette personne qui est morte. C'est un peu, on s'identifie, puisqu'on a eu beaucoup de guerres au Liban, donc on s'identifie un peu. Mais c'est pas vraiment déprimant, parce que moi, je regarde l'art à travers cette toile. Je regarde pas vraiment ce qui arrive. Je pense que la souffrance dépend de chaque personne, c'est-à-dire de l'expérience de chaque personne. Parce que, par exemple, moi, je suis habituée à voir plein beaucoup de paysages de souffrance qui sont assez fréquents au Liban, donc on n'est pas vraiment choqué par les souffrances à distance qui arrivent. Non, ça ne me choque pas, cette toile.
Et est-ce que vous y voyez l'espoir?
L'espoir, oui. Quand la mer va se calmer, il y aura le beau soleil et tout le monde sera mort.
Et que voyez-vous à l'horizon?
Une planche de salut. N'est-ce pas?
Vous la voyez?
Oui, peut-être là-bas. Le petit point là-bas. On ne peut pas vivre sans espoir. Il faut toujours être optimiste. Sinon, on ne peut pas continuer à vivre aisément et calme. C'est pas facile, mais il faut prendre le risque de faire confiance aux autres.
Vous habitez où au Liban?
On habite à Beyrouth.
Ça rend bien avec le téléphone portable?
Non, pas trop. Enfin bon, c'est pas le super, mais bon. C'est pas fait pour ça à l'origine, j'allais dire, donc bon, c'est pas que ça rende. Hein.
Ouais, pas mal quand même.
Ouais.
Vous voulez le garder en souvenir?
Ouais, c'est bon, c'est comme ça, c'est bon.
Tu trouves que c'est fort?
Oui, quand même, ouais. Ouais.
Vous sentez l'étoffe d'un héros dans ce genre de...
Ouais, plutôt, oui. Mais moi, je pense pas que je me laisserai abattre. Je pense que c'est les plus forts qui résistent aussi. Les plus faibles, ben oui, on dirait, c'est logique, qui meurt. Pour s'en sortir, faut se battre. Faut pas se laisser aller, autrement, après, on a vite fait de plonger.
C'est vraiment l'homme à l'état d'un animal. Peut-être qu'il y a un naufrage ou qu'ils ont dû se sauver sur, je sais pas quoi, une partie de leur bateau qui a survécu à voilà un désastre, un naufrage. Et
vous vous identifiez?
Non, franchement, j'estime d'avoir une foi, heureusement, assez, je ne veux pas être orgueilleux, assez, disons, puissante, donc je peux me reprendre vite.
Depuis toujours?
Non, mais j'ai eu une illumination religieuse pendant mon adolescence, disons. Un truc intime, un signe intérieur, disons, que Dieu m'ait donné, et voilà. Et après, j'ai parlé avec des religieux, ils ont dit oui, il a fructifié ces signes. Sur leur avis, c'était un signe intérieur. Parce qu'il faut être très prudent hein, dans les domaines mystiques. Comme ça, il faut être très prudent parce qu'il y a des interférences dues au psychisme qui pourraient être maladifs. Enfin, l'Église même est très, très prudente, l'Église catholique au moins. Et moi, je dois m'en aller parce qu'il y a quelqu'un qui...
Bonjour mademoiselle, j'appartiens au Louvre, hein, et je suis fan du Louvre, et j'adore le Louvre, moi, je suis jardinier au Louvre, voilà, dans le Louvre, le Palais Royal, les Tuileries, depuis 40 ans dans les jardins, je suis fier de travailler pour le Louvre, oui madame, je suis passionné, puis je suis serviable avec les gens, vous savez, moi je suis apprécié, hein. Autant des hommes que des femmes, vous savez, dans mon milieu, là, dans les jardins, j'adore mon métier.
Et du coup, qu'est-ce que vous vous racontez avec le radeau de la Méduse, si vous êtes quelqu'un qui est délégant?
Moi je veux dire, c'est... une chose un peu comme la société qui est malade, vous voyez, ça me fait penser à ça. Je pense à l'espoir de l'humanité, qu'il y a de l'espoir quand même, il ne faut jamais être négatif, il faut être positif, mais j'essaye moi toujours d'être bien. Je montre ma joie aux autres, c'est voilà, parce que quand vous êtes bien, madame, ben les gens viennent vers moi, je vois que j'ai eu que des bonnes choses cette année, hein, que des bonnes choses, vous voyez. Les gens m'amènent des gâteaux, du chocolat, vous voyez, quoi, parce que moi je suis sympa, je renseigne bien les gens, voilà. Je suis vraiment un bon fonctionnaire qui aime de... Quand je me donne à mon travail, je fais pas semblant, je suis un être complet, vous voyez, je me donne complètement aux gens. On est fait pour ça, un fonctionnaire, c'est fait pour ça. Servir le public avec le mieux possible, se remettre toujours en question dans son travail. Je me casse plus la tête à boire du noir. Je crois en Dieu, vous voyez, je suis pas patrican, mais je veux dire, je lis beaucoup. J'adore surtout l'Égypte ancienne. Tous les reines, Hatshepsout, Cléopâtre et Néfertiti. Après, c'est Napoléon que j'adore. Voilà, et plus j'adore les musiques anciennes où c'est un peu de tout, du rock. Par exemple, j'adore Elvis Presley, les chanteurs d'actualité maintenant, aujourd'hui. Moi, mon idole, c'était Claude François. Après, j'en ai un autre, c'est Edith Mitchell, Michel Sardou, Michel Thor.
Et le radeau de la Méduse, vous la connaissez, la chanson?
Ah non, je connais pas. Voilà, je vous laisse.
Brassens. Merci, monsieur.
Merci.
Au revoir, madame.
À bientôt.
Non, ce n'était pas le radeau de la Méduse, ce bateau, qu'on se le dise au fond des ports, dise au fond des ports. Il naviguait en père peinard sur la grand-mare des canards et s'appelait les copains d'abord, les copains d'abord. Ces fluctuates, nec mergitures, c'était pas de la littérature, n'en déplaise aux jeteurs de sorts, aux jeteurs de sorts. Son capitaine et ses matelots n'étaient pas des enfants de salauds, mais des amis franco de port, des copains d'abord. C'était pas des amis de luxe, des petits Castor et Pollux, des gens de Sodome et Gomorre, Sodome et Gomorre. C'était pas des amis choisis par Montaigne et la Boétie, sur le ventre ils se tapaient fort, les copains d'abord. C'était pas des anges non plus, l'évangile ils l'avaient pas lu, mais ils s'aimaient toute voile dehors, toute voile dehors. Jean-Pierre, Paul et compagnie, c'était leur seule litanie, leur credo, leur confiteor, aux copains d'abord.
Les pieds sur terre, quartier d'été, c'était le radeau de la Méduse, la culture pour tous, un reportage de Delphine Saltel réalisé par Diffie Mariani et diffusé pour la première fois le 9 novembre 2007. Merci à Clémence Grosse qui s'est occupée de cette rediff et aux visiteurs du Louvre qui ont alors accepté de nous parler.
Les copains d'abord. Au rendez-vous des bons copains, y avait pas souvent de lapin. Quand l'un d'entre eux manquait à bord, c'est qu'il était mort. Oui, mais jamais, au grand jamais, son trou dans l'aune se refermait. 100 ans après, coquin de sort, il manquait encore. Des bateaux, j'en ai pris beaucoup, mais le seul qui ait tenu le coup, qui n'est jamais viré de bord, mais viré de bord. Naviguait en père peinard sur la grand-mare des canards et s'appelait les copains d'abord, les copains d'abord.